7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Aujourd'hui, nous allons donc vous donner certaines des cartes qui vont vous permettre de comprendre les grands changements géopolitiques du monde. Je reçois le géohistorien Christian Grataloup, bonjour. Vous publiez un vaste atlas historique mondial et on va essayer de voir en quoi les cartes, alors non pas la multitude de cartes que vous proposez
515 dans cet
atlas, voilà, mais dans certaines d'entre elles, par exemple, celle que vous nous proposez de l'Espagne, plus précisément d'ailleurs de la guerre d'Espagne, c'est en page 489 de votre atlas, Christian Grataloup. En quoi permet-elle de comprendre ce qui est en train de se dérouler en Catalogne aujourd'hui?
Alors, les cartes permettent effectivement de comprendre, de situer déjà, c'est au sens littéral du terme, des phénomènes et la position catalane à l'extrême orient de la péninsule ibérique est donc une histoire assez différente. Ce que des cartes rétrospectives dans l'Atlas permettent de voir, entre autres, puisqu'on peut suivre toute l'histoire de la péninsule ibérique qui devient pour partie une histoire espagnole dans les cartes antérieures. Donc, l'histoire de l'Aragon. De ce point de vue-là, les histoires des aventures aragonaises qui construisent un empire méditerranéen à la fin du Moyen-Âge sont un élément effectivement qui ensuite a une fonction identitaire dans la mémoire du peuple catalan. Donc là, effectivement, la dimension de la cartographie historique est tout à fait utile pour comprendre ce qui n'explique pas, ne justifie pas encore moins quelque chose qui pourrait être une identité catalane aujourd'hui. Elle est construite à partir de ces mémoires.
Justement, est-ce que ça a un sens pour un géographe de dire que telle région devrait être indépendante, que tel pays a des frontières artificielles? Comment vous voyez-vous les choses, Christian Grataloup?
Toute frontière est artificielle, donc là, j'ai aucun problème là-dessus. Il y a des discontinuités entre sociétés, sinon il n'y aurait pas un pluriel à la société. Et c'est quelque chose dont le géographe doit être, et le cartographe en particulier, doit être particulièrement conscient parce que la carte a un effet réaliste. C'est-à-dire on tire le portrait d'une société quand on en fait la carte. Elle se met à exister. Alors, en France, on connaît bien le rôle de la carte de France, et non pas de la France, comme incarnation du roman national. Et les deux vont de pair. Mais c'est vrai absolument partout. C'est pourquoi, quand on fait de la cartographie, et en particulier de la cartographie historique, le grand souci doit être la question du cadrage. Où est-ce qu'on découpe? Où est-ce qu'on crée une entité? On ne coupe pas au hasard. Hein, si on avait fait... Mais ça peut être intéressant, et d'ailleurs, on l'a parfois fait dans l'Atlas, si on fait une carte qui serait pour partie la Castille, pour partie l'Aragon. On s'intéresserait à ce moment-là sur la discontinuité entre les sociétés, qui peut devenir une frontière linéaire. Mais ça, c'est une invention des 17e, 18e siècles. En tout cas, d'avoir quelque chose qui met l'accent sur, comme on a aussi des cartes pour les discontinuités les plus chaudes, des fronts militaires. On a évidemment plein de guerres dans l'Atlas. Donc, quand on centre au contraire sur un fait de société, on lui donne toute une véritable réalité, à tel point très souvent... On le connaît bien, entre autres, pour les cartes de France, que l'espace, le territoire concerné se met à flotter. Il n'a plus de frontières. Il n'a plus que du vide autour de lui. On pourrait très bien faire, je sais pas, j'ai pas vu de carte indépendantiste catalane, mais j'imagine que c'est une tentation à laquelle peut-être ont-ils cédé parfois. C'est quelque chose qui fait qu'il est toujours intéressant de cadrer plus large, pour contextualiser, quitte évidemment à avoir un territoire concerné plus petit. Et ça, c'est une dimension tout à fait importante.
Passons maintenant à une carte que l'on commente à intervalles réguliers. C'est la carte de la Syrie, de la guerre civile à la crise internationale. Autrement dit, depuis 2011, Christian Grataloup, qu'est-ce qu'elle permet de voir cette carte qui n'en finit pas d'être animée, hélas, aujourd'hui avec l'offensive contre les Kurdes menée par la Turquie? Qu'est-ce qu'elle révèle selon vous, cette carte?
Je commencerai pas par dire que l'Orient est compliqué, c'est absolument évident sur ces cartes où on a des marqueteries sur la double page que vous avez choisie. Il y a trois cartes dont aucune ne correspond à leur cartographie classique avec des frontières linéaires stables et établies.
Et j'ajoute que ces cartes, vous allez les retrouver sur le site de France Culture. Donc si les auditeurs veulent suivre votre commentaire de carte, voilà. Grataloup, ils peuvent le faire.
Et alors, il y a une chose d'ailleurs auquel j'ai tenu dans l'Atlas, c'est qu'en haut de toutes les pages de droite, vous avez des renvois. Entre autres parce que le plan de l'Atlas aurait pu être autre. C'est très difficile de faire un plan d'Atlas historique, c'est un défi. Donc on a des liens avec l'ensemble du monde du Moyen-Orient qui lui-même va nous renvoyer à d'autres cartes et on remontera au croissant fertile. Tout simplement, on est à l'un des le carrefour le plus durable, le plus complexe de toute l'histoire humaine, qu'on appelait proche au Moyen-Orient, au croissant fertile ou Méditerranée orientale, comme vous voulez, qui est justement celui où on a la plus grande superposition de structures et où, de ce fait, l'imbrication des peuples est particulièrement grand. On a quelque chose qui est à la fois visible et invisible dans les trois cartes qu'on a sous les yeux. C'est drôle de lire la radio. C'est les Kurdes. Ah, vous avez là un peuple, alors on retrouve en amont le peuplement kurde, mais vous avez quelque chose dont la structure, enfin qui aurait pu donner une structure étatique, qui correspond bien à une langue différente, mais qui est en même temps totalement imbriqué avec d'autres peuples. C'est-à-dire qu'on est dans la situation qui, historiquement, est banale, au fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une discontinuité territoriale nette que va trancher une frontière entre un en-deçà où il y a une langue et un au-delà où il y a une autre langue et un autre peuple.
Mais alors pourtant, le sort des Kurdes, il paraît est complètement inédit, Christian Grataloup. D'où vient cette spécificité, cette singularité malheureuse ? Puisqu'il n'y a toujours pas aujourd'hui de pays kurde, de Kurdistan, et c'est bien là d'ailleurs l'une des données du problème.
La revue L'Histoire avait fait en 2016 un gros dossier sur les Kurdes. Nous avons repris des cartes. Et les Kurdes, c'est un problème qu'on peut pister sans difficulté historique depuis le XIIe siècle. Mais ils ne sont pas les seuls. Vous avez des Druzes, vous avez d'autres types de populations identifiables et qui s'identifient elles-mêmes. C'est comme ça se construit une population qui sont visibles dans cette région et qui a bien failli au moment des accords Sykes-Picot. Alors, vous avez la carte un peu en amont.
Alors ça, il faut expliquer ce que sont justement ces accords Sykes-Picot.
Pendant la Première Guerre mondiale, lorsque l'Empire ottoman était un ennemi des alliés franco-anglais, qui par ailleurs étaient de vieux impérialistes dans la région, il y a eu un accord assez rapidement tracé sur le papier entre deux diplomates, l'un français et l'autre britannique, pour se partager cette région. Et en même temps, pour démanteler le plus possible les régions kurdes. Ça s'est retrouvé dans le traité de Sèvres, autre carte de l'Atlas, ça s'est retrouvé dans le traité de Sèvres où des régions autonomes kurdes, y compris en mettant en jeu l'Iran qui n'était pas impliqué par la Première Guerre mondiale, en tout cas directement, étaient envisagées comme devant appartenir à un État à venir.
Pourquoi remettre en cause les accords Sykes-Picot ? Pourquoi Daesh, par exemple, en faisait l'un de ses objectifs ?
Oui, en fait, c'est un peu fantasmatique parce que les accords n'ont jamais été appliqués. Au contraire, les accords de Lausanne, hein, qui ultérieurement ont, en 1923, après la victoire de Kemal Atatürk, ont réussi à tracer à peu près, il y a eu ensuite quelques petits correctifs, mais à peu près les frontières actuelles. Donc, ce sont ces frontières qui, pour partie, sont coloniales, celles entre l'Irak et la Syrie, celles avec la Jordanie, par exemple, l'autonomisation, enfin l'indépendance même tracée par les Français du Liban. Voilà des choses qui sont des actes géographiques que peuvent remettre en cause effectivement ceux qui défendent un monde arabe. Mais dans une certaine mesure, Daesh, évidemment je ne vais pas les lols de Daesh, hein, mais Daesh retrouve des logiques de construction par dépendance d'homme à homme, par lien lignagé, par le fait que ce qui construit une société, ce ne sont pas les appartenances territoriales, mais les appartenances personnelles, sociales, qui de ce fait rend le territoire, lui, il n'existe que par les hommes qui habitent dessus. Donc ça peut être une marqueterie, comme l'était l'Empire ottoman. Il se retrouve effectivement dans une vieille structure historique et de ce fait, il gomme les frontières qu'on peut effectivement appeler coloniales. Hein.
Mais alors, Christian Grataloup, ce qu'on évoque lorsqu'on parle de la ligne Sykes-Picot, c'est vraiment une ligne dans le sable et du coup, elle est aujourd'hui synonyme d'une division complètement artificielle des États. On a raison ou on a tort? Puisque tout à l'heure, vous disiez finalement, les frontières, elles sont toujours artificielles.
Je ne suis pas un spécialiste du Moyen-Orient, mais je sais qu'il y a une polarisation sur Damas et une polarisation ou d'autres villes plus anciennes dans la région et une polarisation sur la Mésopotamie depuis l'an 1000, je dirais dirais vers Bagdad. Vous avez donc une double polarisation qui explique qu'aujourd'hui, il y a une Syrie et un Irak. Ça me semble pas du tout, là, une profondeur historique qui correspond là aussi à des discontinuités du milieu naturel, dans la mesure où il y a la vallée du Tigre et de l'Euphrate, et puis le piémont des montagnes du bord de la Méditerranée. Ça, c'est deux pôles qu'on retrouve à la fois liés, le croissant fertile, et divisé depuis, alors là, effectivement, quelques millénaires.
Et alors, le fait qu'on ait affaire à une mosaïque syrienne, est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose qui serait de nature à expliquer la situation actuelle du pays, avec donc non seulement les Kurdes, ça on vient d'en parler, mais aussi les Alaouis, donc ça c'est cette minorité à laquelle appartient Bachar el-Assad qui gouverne le pays, mais aussi des Druzes, des chrétiens, des ismaéliens, bref, cette myriade de peuples, est-ce qu'elle explique la difficulté et la violence de cette crise syrienne ?
Alors effectivement, j'invite bien les auditeurs à regarder la carte que vous venez de citer, la mosaïque syrienne. Non, la mosaïque n'explique pas la violence. Des sociétés intercommunautaires avec des sociétés qui parlent pas à peu près d'ailleurs qui ont une langue, des langues communes pour vivre ensemble, et qui ne pratiquent que des variantes religieuses, c'est quelque chose qui a existé. C'est un terreau, effectivement, dans lequel on peut souffler sur des braises éventuelles. Mais c'est ce qui explique la violence syrienne, c'est les 40 ans de dictature préalable. Peut-être elle-même greffée sur une période coloniale antérieure, par une domination ottomane, etc. Ce sont d'abord et avant tout des géopolitiques locales, d'abord, qui s'inscrivent dans des géopolitiques plus globales, qui sont les facteurs qui utilisent ces oppositions.
La seconde carte que j'ai choisi de vous faire commenter, Christian Grataloup, parce qu'elle est particulièrement actuelle, c'est la carte des murs interétatiques. Alors, il y a donc cette fois-ci une carte du monde. On connaît bien certains murs, tout simplement parce que ceux-ci sont bien souvent commentés dans l'actualité. Le premier de ces murs, celui qui est devenu extrêmement célèbre, c'est celui qui sépare le Mexique des États-Unis. Là aussi, est-ce qu'il y a des murs qui vous paraissent non pas plus justifiés, parce que les murs sont encore plus artificiels que les frontières, j'imagine, pour vous, mais correspondre à des fractures géographiques ou à des fractures historiques?
Les murs sont des frontières, simplement ce sont des frontières exacerbées. Ce qui est important, c'est d'abord de ne pas imaginer que ces murs ont été de toute éternité, en pensant au limès romain ou à la Grande Muraille de Chine.
Le limès romain, c'était quoi ?
C'était effectivement pour une partie seulement une construction militaire avec des palissades, avec tout à fait quelque chose qu'on peut appeler un mur, puis des fortifications, la Grande Muraille encore plus, c'est sur une plus grande longueur.
C'était pour empêcher qui ? Ben, pour le limès romain.
C'était pour empêcher des migrations, effectivement, des mouvements de population, mais c'était surtout pour protéger des terres contrôlées, fiscalisées, etc., dans la mesure où, de l'autre côté du limès, on utilisait aussi souvent la même monnaie, le romaine, les mêmes types de consommation. Simplement, il y avait ce que contrôlait précisément un État et ce qu'il ne contrôlait pas. Ils avaient bien essayé, les Romains, d'aller en Germanie, mais enfin, ça n'avait pas marché. Non, aujourd'hui, les murs, en dehors peut-être d'un mur strictement militaire comme celui entre les deux Corées, ce sont effectivement des sociétés pour rendre, des constructions sociales pour rendre étanches les sociétés les unes aux autres. Et là, c'est vraiment le comble de la discontinuité entre les sociétés que représente la frontière. Ça, c'est quelque chose qui sont des lignes. Et la cartographie historique a justement ce problème qui n'est pas le nôtre aujourd'hui, qui est de tracer des lignes là où il n'y en avait pas forcément. Car les discontinuités entre les sociétés étaient floues, imbriquées, etc. Les communautés syriennes qu'on évoquait tout à l'heure, les limites en Afrique, jusqu'à ce que les Européens introduisent la ligne droite avec le partage de Berlin en 1885. Donc aujourd'hui, on a des discontinuités. Ces discontinuités sont pour l'essentiel des discontinuités nord-sud. D'autant plus qu'il y a des murs invisibles. L'Europe, on le connaît bien, on a un mur, c'est la Méditerranée. Mais le Japon aussi est entouré d'un mur, ou la Corée sont entourés d'un mur qui bloque des migrants. Il n'y a pas qu'à Calais. Donc vous avez bien là une discontinuité entre riches et pauvres, entre dans l'intérieur de l'ensemble mondial. C'est d'abord ça.
Et puis, il y a un mur, là aussi, qui est bien souvent dans l'actualité. C'est le mur qui sépare Israël de la Palestine, enfin d'une partie d'ailleurs de la Palestine. Alors là, c'est une question évidemment qui est à manier avec précaution, tout simplement parce que la géographie dans la région est un sujet éminemment polémique. On a vu récemment une polémique parce que il y avait une carte de la région à l'Institut du Monde Arabe qui ne représentait pas correctement tous les pays qui sont situés aujourd'hui là-bas. Comment un géographe aborde-t-il cette question-là, Christian Grataloup?
Alors d'abord avec prudence, parce que il y a des questions diplomatiques à chaque fois qu'on aborde, y compris rétrospectivement dans le passé, hein, où on peut avoir des... ça a été le cas avec la Serbie, par exemple, hein, où on peut dire non, c'était serbe, cette région-là. Vous avez au Maroc, en Corée, vous avez justement entre le Pakistan et l'Inde, et puis bien sûr en Israël, des discontinuités ou des continuités qu'il est difficile de tracer. Sur le plan diplomatique, et un éditeur vous dira qu'on perd des ventes si jamais. Évidemment, parfois, il faut prendre ce risque. Oui, alors, autour des... Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, je me souviens, la Chine est très sourcilleuse sur ses appartenances, et dès qu'on met une carte qui ne convient pas, ils nous demandent de réécrire.
Ah oui.
Oui, non, mais on n'est pas forcément. Donc,
pour la Chine, l'une des questions, c'est, par exemple, Taïwan.
Ah oui, tout à fait. Si vous représentez Taïwan d'une autre couleur, simplement en termes de couleur, hein, même sans écrire quoi que ce soit, que la Chine continentale, votre atlas ne sera pas traduit, par exemple. Voilà.
Et puis, l'autre question, là aussi, beaucoup plus actuelle pour la Chine, je veux dire, la nouveauté, ce sont ces fameux îlots Paracels dont il faut rappeler à la fois l'existence et le statut, Christian Grataloup.
On a tenu dans l'Atlas à avoir une double page, presque à la fin, juste avant ces murs, justement, une double page sur la vieille puissance mondiale que sont les États-Unis et leur rôle dans le monde aujourd'hui, puis une sur la Chine et les routes de la soie, et c'est sa volonté de revoir ses frontières. Là, on est bien dans un aspect mouvant. Ce qui est important, c'est effectivement de revenir à la carte bien antérieure de la Chine du XVIIIe siècle, où la vision impériale de la Chine, qui était largement effective, est une Chine beaucoup plus grande. Et les îles Paracels sont une sorte de pointe avancée par rapport à la Sibérie orientale, l'Asie centrale, le Népal, enfin toutes choses que la Chine qui relevait de l'Empire chinois directement ou indirectement. La langue de bœuf, là dans le sud de la mer de Chine méridionale, c'est en tout peut-être un début.
Justement, on continue avec la Chine, mais cette fois-ci, les nouvelles routes chinoises de la soie et une carte que vous nous proposez. Alors, c'est une carte extrêmement vaste, puisque elle va du Kenya à la Chine, en passant par la totalité de l'Union européenne. Que révèlent-elles ces routes de la soie, Christian Grataloup?
Alors, la première chose que je dirais, c'est que c'est une carte qui est en double page dans notre atlas, parce qu'on a privilégié la cartographie, hein, par rapport au texte ou par rapport à ce que sont le plus souvent les atlas historiques. Donc, il faut voir grand.
On la retrouve sur le site internet de France Culture pour les auditeurs qui veulent suivre ce commentaire de carte.
Et par ailleurs, à partir d'un code sur l'atlas, on peut la retrouver sur le site gratuitement, sur le site de l'Histoire en PDF, c'est-à-dire sans la pliure du livre, de manière facile à utiliser. Et là, je pense surtout aux enseignants. Vous avez là quelque chose qui nous montre les liens qu'a volontairement utilisé la Chine, une expression d'ailleurs qu'elle l'utilise moins, hein, qui est celle des nouvelles routes de la soie, au bord, hein, One Belt, One Road, qui consiste à, somme toute, retrouver les routes de l'ancien monde. Dans tout l'Atlas, avant la partie centrée sur le 15e siècle, on a constamment cette construction de ce qui deviendra ultérieurement le niveau mondial, et qui sont ces réseaux qui vont des mers de Chine à la Méditerranée depuis plusieurs millénaires. Et que, au 19e siècle, un géographe allemand, von Richthofen, a appelé les routes de la soie. C'est une invention européenne, évidemment, ça vient de Chine, donc c'est la soie. Vous avez là quelque chose qu'a réutilisé par une mémoire occidentale, l'expression route de la soie, a réutilisé la diplomatie chinoise actuelle pour mener des tracés économiques et retrouver quelque chose, d'ailleurs, qui est à la fois maritime et terrestre, et qui correspond effectivement aux échanges millénaires que j'évoquais. Donc là, on a à la fois une grande profondeur historique et une actualité offensive.
Alors, pour évoquer toujours l'actualité, comme vous dites, offensive, nous avons choisi une carte de la crise russo-ukrainienne de 2014 et 2015, où l'on voit, là aussi, vous la retrouvez sur le site de France Culture, franceculture.fr, Christian Grataloup. Que montre cette carte ?
Alors, les pages. Quelle page?
Vous l'avez pas. Je vais proposer à mon camarade Aurélien Bélanger de vous transmettre cette carte
d'accord,
que j'ai de la crise russo-ukrainienne.
Voilà, alors là aussi, elle s'inscrit dans une grande continuité historique.
J'espère que vous les connaissez par cœur quand même.
Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de problème, mais c'était la page pour la retrouver. Vous avez, ce sont celles, ça c'est la carte d'ailleurs qu'on trouve sur le site de l'Histoire que vous me donnez. C'est pas, il n'y a pas la pliure du livre. Vous avez là quelque chose qui s'inscrit dans une très très longue continuité, qui est justement la partie septentrionale de la mer Noire, que la Crimée, la Chersonèse d'Ors, si vous remontez aux plus anciennes cartes, vous avez quelque chose qui est lié à ce qui se trouve de manière plus méridionale, ça a été le monde grec antique, puis le monde byzantin. Vous avez les Italiens, les marchands italiens qui étaient présents là, en même temps que vous êtes au bout de ces routes terrestres, de routes de la soie qu'on évoquait il y a un instant. Donc on est là dans une situation carrefour, qui n'est pas nouvelle, qui est un lieu de conflit particulièrement marqué. À partir du moment où, au XIVe, XVe siècle, apparaît quelque chose qui est le Grand-Duché de Moscou, puis la Russie impériale, et qui considère que c'est sa fenêtre sur les mers chaudes.
Justement, lorsque l'un des géographes français, Yves Lacoste, explique que la géographie, ça sert à faire la guerre, est-ce que cette carte de la Russie et de l'Ukraine, elle est particulièrement explicative de ce conflit? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des géographies qui rendent la guerre plus probable, Christian Grataloup?
Il y a effectivement des régions carrefour et carrefour pendant de longs millénaires où la probabilité de conflits et d'affrontements est plus forte. Oui, c'est exact. Et inversement, des ensembles plus préservés, les archipels. Hein, le Japon a une histoire violente vis-à-vis de l'extérieur. Il a eu des conflits internes au XVIe siècle en particulier. Mais entre la tentative mongole du XIIIe siècle et puis 1945, il n'a pas été agressé.
Dernière carte pour faire transition avec la transition, la carte des changements climatiques. Vous l'avez juste à côté de vous, Christian Grataloup. Elle est visible sur le site de France Culture. Et là, on voit quelles sont les régions qui sont particulièrement exposées. Je dois dire qu'une partie de l'Europe l'est.
Oui, Londres, Venise est l'exemple le plus simple. Je voudrais juste faire remarquer qu'elle suit immédiatement la carte des murs. C'est-à-dire que il me semblait important que dans l'Atlas, on ait la contradiction entre les problèmes que se pose la société mondiale, l'écoumène, l'ensemble des hommes, d'une part, et puis le fractionnement en un ensemble de sociétés différentes, séparées éventuellement par des discontinuités fortes et des murs, ce qui nous ramène d'ailleurs à l'indépendantisme catalan de tout à l'heure. Il est effectivement important que la pratiquement dernière carte, enfin c'est trois avant la fin, soit centrée sur le problème crucial, essentiel qui est devant nous et qui se traduise par, sur un planisphère le plus simple possible, le plus lisible possible pour le lecteur moyen, soit nous montre les régions qui sont menacées. Alors, 80% des hommes vivent en dessous de 200 mètres d'altitude. Alors, il n'est pas question pour le moment d'envisager une montée du niveau marin à 200 mètres. Il ne faut pas oublier simplement qu'il y a 15 000 ans, ce qui n'est pas vieux hein, pour l'histoire de la Terre, il était plus bas de 130 mètres. Donc, ça varie. Hein. Enfin, là, c'est 200 mètres. Non. Mais plusieurs mètres, oui, ce n'est pas impensable. Ce qui mettrait à mal non seulement Venise et Londres pour l'Europe, et bien d'autres régions du monde, entre autres des archipels, mais mettrait à mal l'essentiel de la population mondiale. Donc ça, faut surtout pas l'oublier. C'était bien de conclure là-dessus.
Et avec des risques qui sont extrêmement variés, parce que ça va aussi bien donc de l'augmentation du niveau des océans que des risques liés aux incendies, des risques liés également à la modification des cultures. Autant de risques que vous avez fait figurer sur cette carte, Christian Grataloup.
Oui, il faut être conscient des risques, savoir que tout changement est plus complexe que réduit à un catalogue de risques. Il y a aussi éventuellement des possibilités pour des régions qui aujourd'hui sont impossibles à cultiver d'avoir au contraire des transformations agricoles. Donc ça peut être un peu plus complexe. Mais malgré tout, effectivement, c'est la somme des risques qui nécessite plus qu'une prise de conscience, qui nécessite une politique. À l'échelle du planisphère, ce ne pouvait être qu'un planisphère.
Christian Grataloup, votre atlas historique mondial, il y a beaucoup de cartes, on a envie de les apprendre par cœur, elles permettent de mieux comprendre effectivement la transformation du globe et aussi une partie de cette actualité qu'on commente chaque jour ici et c'est publié donc aux éditions Les Arènes, l'histoire.